Eh bien, bienvenue sur le plateau d'Avero SFM et je donne la parole au directeur adjoint. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui est un jour particulier ici au lycée collège Averroès. Une chronique radio importante préparée par les enseignants. Donc en particulier Madame Chouara et Madame Imoussaïn qui travaillent depuis plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs semaines, pour préparer cette grande journée. Hein, c'est une heure, mais c'est riche d'enseignements. Donc cette activité s'inscrit dans le cadre de la semaine de la presse et des médias. Et bien entendu, dans l'établissement, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur cette thématique, notamment avec Madame Mamèche, hein, qui est documentaliste et chargée de l'orientation. Donc les enseignants, l'équipe pédagogique travaille sur des projets, des activités, des séquences pédagogiques, justement pour montrer aux élèves l'importance de la presse, l'importance des médias. Et nous avons eu l'honneur de recevoir d'ailleurs pendant toute une semaine deux journalistes qu'on remercie. Dont une est présente, je pense, je ne sais pas si notre collègue est là. Donc pour discuter avec les élèves, pour leur faire comprendre l'importance du journalisme, de la presse, échanger avec eux, répondre à leurs questions. Donc aujourd'hui, ce sont les élèves qui sont au travail. D'après mes notes, il y a 13 élèves du collège qui ont travaillé, qui ont préparé des séquences, donc depuis la 6e jusqu'à la 3e. Donc aujourd'hui, c'est eux qui sont à l'œuvre. Donc je ne manquerai pas, bien entendu, de remercier la radio RPL Radio, donc qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui pour ce plateau éphémère. Donc éphémère, mais je pense que il restera durement dans le temps. Voilà, donc je vous remercie et bon courage.
Merci beaucoup. On va aborder avec les collégiens pas mal de thématiques ce midi. On parlera d'environnement, on parlera d'histoire, de sport, de musique. Une émission très riche qui vous attend sur Avero SFM. Et puisqu'il est midi, on commence avec un premier thème, la cuisine. Et c'est Enya qui vient nous parler. Bonjour.
Bonjour. Les Français fous de cuisine. Bonjour et bon appétit. Et puisque vous êtes à table, je vais vous parler de nourriture. En France, la cuisine touche de plus en plus de personnes, hommes et femmes, de tout âge confondu. Un Français sur sept a déjà pris des cours de cuisine, autant gourmand que gourmet. Nous adorons la gastronomie et nous nous inspirons des émissions de télévision. Ces émissions, vous les connaissez tous, Top Chef, Un dîner presque parfait, Cauchemar en cuisine. Ce phénomène culinaire passe aussi bien par la télévision que par le net. Nous avons tendance à utiliser 46% des recettes qui se trouvent dans les sites. Et 16% sont des recettes de cuisine que nous transmettons entre amis. Nous ne restons pas sur nos tranchées, car nous cuisinons de plus en plus de mets de cultures différentes. Il est vrai que nous aimons la cuisine italienne pour ses pastas et ses pizzas, la Thaïlande pour ses nouilles, le Japon pour ses sushis, le Maroc pour son tagine, l'Algérie pour son couscous, et ainsi de suite. On aime manger et on mange tout. Et je ne vous parle pas de la pâtisserie qui a avec nous un grand succès. D'ailleurs, les émissions comme Le meilleur pâtissier de France ou Les rois du gâteau sont très connues. Elles ont fait connaître au grand public des pâtissiers célèbres comme Cyril Lignac, celui qui dit c'est croquin, c'est moelleux, c'est gourmand, Pierre Hermé ou Philippe Conticini. Il y a des blogs de pâtisserie comme celui de notre célèbre Mercotte. Savez-vous combien il en existe ? J'ai vu plus de 2000 blogs de cuisine. Donc autant dire que nous aimons manger et bien manger. Avec tout ça, on est plus de 8 Français sur 10 à cuisiner. C'est beaucoup, presque autant de femmes que d'hommes. Et oui, les hommes les plus jeunes déclarent faire de la cuisine. Ils sont près de 47%. Alors messieurs, à vos fourneaux. Et pour celui ou celle dont la pâtisserie n'est pas son fort ou par manque de temps, il existe des services de livraison à domicile. Vous avez Uber Eats, Just Eat ou encore Foodora. La livraison à domicile fait fureur en France. Le confort à la maison, avec la cuisine du restaurant, c'est top. Bref, avec tout cela, on n'est pas prêt de mourir de faim.
Merci pour cette première chronique. On va continuer dans la cuisine. Enfin, oui, on peut l'applaudir. Enfin, la cuisine, puisqu'on va parler de Nutella.
Le Nutella, c'est bon, mais pas tant que ça. Bonjour à tous. Savez-vous qu'en France, chaque seconde, on mange 2,7 kg de Nutella, soit 1 million de pots par jour. Et par an, cela donne 84 000 tonnes de Nutella par an. Oh toi, Nutella, que tu es délicieux. toi, petit Nutella, qui viens s'étaler sur nos petites tartines. Tu es la star de la pâte à tartiner. Des gens s'en vont même à se battre pour moi. Intermarché, où j'y coûte 70% moins cher que chez des concurrents. Bien sûr, ils veulent nous faire croire que le Nutella, chaque jour, c'est du bonheur à tartiner et que c'est de l'énergie pour les enfants, car ils en ont besoin pour aller à l'école. Bref, ils s'imaginent vraiment qu'on va gober des bêtises pareilles. Car, chers auditeurs, tu ne le sais sans doute pas, mais la France est le plus gros consommateur de Nutella au monde. Ce fidèle compagnon de petit déjeuner nous cache bien des choses que nous allons découvrir ensemble. Si les nutritionnistes, écologistes et politiques font une si mauvaise publicité de cette pâte, c'est qu'il y a deux raisons. La première, que nous connaissons tous, la présence d'huile de palme. Cette huile n'a en effet aucun intérêt nutritionnel et elle contient 40% d'acide palmique. Il y en a 20% dans le pot. Cette huile de palme favorise le dépôt du cholestérol sur les artères, notre pauvre cœur. Mais ce n'est pas tout. Et oui, là, on nous embobine bien. Cette huile de palme est responsable de 90% de la déforestation en Malaisie. Les forêts sont remplacées par des palmiers à l'huile et l'extinction des sages en Asie est annoncée. Maintenant, vous savez tout. Le Nutella a déclenché une question de survie de cette espèce animale. Vous êtes consommateur, vous êtes responsable.
Merci. On fait une petite pause musicale et après on parle foot avec Mohamed.
Avero SFM, les collégiens prennent la parole.
Roots and culture.
Mesdames et messieurs, venez vous asseoir à ma table. Prenez place, je vous en prie, ce siège est-il bien confortable? Voulez-vous boire quelque chose de délectable? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vous préviens, l'eau n'est pas potable. Voici la carte, n'hésitez pas si vous avez des questions. Permettez-moi de vous faire ces quelques propositions.
Je peux vous faire déguster un excellent millésime. 60 taux exceptionnels de sulfite et rarissime. Ou désirez-vous la carte des boissons sans alcool? Elles sont toutes sucrées à souhait, la digestion sera plus folle.
À table, il est l'heure de passer. À table,
un dîner presque parfait.
À table,
c'est le moment de savourer. Nous vous invitons à prendre place.
Pour introduire votre repas, voilà le choix que je vous sers. Soit le plateau de charcuterie au nitrite aromatique, soit la salade de tomates toute saison qui ont poussé sous serre, accompagnée d'une mozzarella 100% synthétique.
Pour continuer à vous décrire la suite de ce menu, je vous suggère une volaille qui n'a jamais vu le jour.
Je vous assure qu'elle est restée enfermée, immobile dans une cage sans issue. Elle n'avait pas de plumes comme toutes ses voisines de la cour.
Si votre choix se porte plutôt sur une viande rouge,
c'est saignante ou bien cuite, elle est à point contaminée.
Issue de vaches folles si délicieuses en bouche.
On ne connaît pas leur provenance ni ce qu'elles ont ruminé.
En accompagnement, voilà ce que nous vous proposons.
Les légumes ne sont évidemment pas de saison.
Ils sont chargés en OGM, en pesticides, c'est tout ce que l'on aime.
Ils arrivent tout droit de l'autre bout du monde, les paysans ne savent même plus ce qu'ils sèment.
Ne savent même plus ce qu'ils servent.
À table, il est l'heure de passer.
À table,
un dîner presque parfait.
À table,
asseyez-vous, détendez-vous, régalez-vous.
Avant de finir ce repas, voici des fromages reconstitués.
Ils sont tous d'appellation sans origine contrôlée.
La vache qui rigole, le carré qui rit.
Farandole de marque commerciale pour votre harakiri.
Concernant les desserts, vous êtes dans la meilleure cantine.
Nous disposons d'une flotte de micro-ondes en cuisine.
Nos tartes industrielles sont fraîchement surgelées.
Vous les connaissez, ils ont le même fournisseur juste à côté.
Est-ce que tout s'est bien passé? Avez-vous bien mangé? Est-ce que vous êtes satisfait?
Notre carte vous garantit d'entretenir vos cancers et vos excès.
Nous vous remercions d'être passé nous voir.
En réglant l'addition, n'oubliez pas mon pourboire.
N'hésitez pas à parler de nous, faites de la pub autour de vous.
Nous allons encore nous perfectionner, allez-y, empoisonnez-vous.
Anesthésie de vos papilles gustatives.
La chimie et des cultures intensives.
À table, il est l'heure.
SFM, les collégiens prennent la parole.
On est de retour sur le plateau d'Avero SFM. Et avant qu'on ne parle musique avec Fouad, on va parler foot avec Mohamed.
La Coupe du Monde entachée par l'envahissement de la pelouse du LOSC. Bonjour à tous, auditeurs du midi et fans de foot. Aujourd'hui, dans cette nouvelle chronique sportive éphémère, j'ai envie de revenir sur la drôle fin de match qu'a connu le club lillois ce samedi 10 mars au soir. À la fin du match nul qui l'opposa à Montpellier, les supporters de Lille ont envahi en masse le terrain. Et vous allez sans doute pas me croire, ce n'était pas pour soutenir leur équipe, même s'il est interdit d'aller sur le terrain, mais plutôt pour déclencher une grosse bagarre générale. Certains fans n'ont pas supporté voir le LOSC en avant-dernière place de la Ligue 1. Bilan, 9 personnes interpellées et placées en garde à vue. Et ce n'est pas tout. Le 17 mars, en plein match, éclate une bagarre entre deux joueurs de l'AJ Auxerre. Paloma donne un coup de tête à Barreto. Cela ne vous fait pas penser à quelque chose ? Zidane, la Coupe du Monde ? Ah oui, vous n'étiez pas encore né. Bref, des conflits éclatent sur le terrain de match. Des bagarres, où va-t-on ? Ce sont des attitudes qui ne sont pas tolérables pour nous, qui aimons le foot et le sport en général. Elles ne sont pas à l'image des valeurs véhiculées de la Coupe du Monde. Savez-vous combien nous sommes dans le monde à aimer et à regarder le foot ? Moi non plus. Mais ce que je sais, c'est que le foot déchaîne la passion et doit laisser une image positive. Je vais vous donner la raison pour laquelle est née cette compétition internationale de foot. Elle est née pour véhiculer des valeurs de paix et d'universalité. Je sais aussi qu'elle est née en 1928 chez nous, en France, grâce à un certain Jules Rimet, le premier président de la FIFA. Alors si les matchs doivent se dérouler ou finir en bagarre générale, c'est sûr, la paix dans le monde, on peut encore y rêver.
Merci Mohamed, merci. Et on va passer du foot à la musique avec Fouad.
Bonjour, aujourd'hui nous les jeunes, on aime écouter du rap. C'est pas la plus écoutée en France. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. En effet, je vais vous faire voyager dans le temps et dans des endroits différents de la planète. Je vais vous faire découvrir des genres musicaux variés et des chanteurs qui ont eu un succès mondial. Tout commence en 1910 avec l'arrivée du jazz en Nouvelle-Orléans. C'est un genre musical né aux États-Unis par les Noirs américains dont la particularité est l'improvisation et le rythme. Vous connaissez peut-être Louis Armstrong, le plus grand chanteur de jazz de son époque. Pendant son succès, plus loin en Europe, la France connaît aussi une gloire dans la chanson. Avec Edith Piaf en 1946 avec sa chanson « La vie en rose ». Elle a eu du succès au niveau mondial. Même si en 1954, aux États-Unis, le rock fait sa place avec Elvis Presley. Là, je n'ai rien à dire. C'est pas notre genre musical. Par contre, en Angleterre, je sais qu'en 1962, un célèbre groupe de rock, les Beatles, est créé et connaît un succès mondial. Pendant ce temps-là, en 1963, dans un endroit plus lointain, ensoleillé, où les eaux sont turquoises et où on a envie de plonger, un chanteur fait parler de lui. C'est en Jamaïque et c'est Bob Marley, avec le reggae. Le reggae est un genre musical qui voit le monde d'une certaine manière. C'est le monde des Rastas, des fameuses tresses, les dreadlocks. Ils sont proches de la nature, ils sont végétariens. Enfin bref, plus tard, avec la fin de la guerre du Vietnam, il y a l'esprit peace and love, qui se manifeste dans la musique. Les jeunes de cette période, qui sont nos grands-parents, rejettent cette culture de la guerre. D'ailleurs, John Lennon va sortir sa chanson Imagine, un hymne à la paix qui est écouté mondialement. En 1978 arrive la disco. C'est une musique qui se situe entre le jazz et le rock. C'est pas ce que nous aimons, mais nos parents ont connu cette musique. Maintenant, ça devient un peu plus intéressant pour nous. Et ouais, le rap fait enfin son entrée dans le ghetto noir américain en 1979. Savez-vous ce que cela signifie ? Le rap provient de l'argot américain « to rape », qui signifie « bavarder ». Les rappeurs traitent de tous les sujets de la vie quotidienne dans leurs chansons. Je vous invite à traduire les paroles de vos chanteurs de rap préférés. Vous verrez, vous serez étonnés. Et en plus, vous améliorerez votre anglais.
Merci beaucoup. On va refaire une petite pause musicale avant de parler des jours de vacances. Il paraît qu'on a trop de jours de vacances. On en parle juste après.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Prends garde à toi
et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Prends garde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Prends garde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime.
L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Prends garde à toi.
J'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut je vais les changer moi.
Prends garde à toi.
Et s'il le faut j'irai me venger moi. Cet oiseau de malheur je le mets en cage. Je le fais chanter moi.
Prends garde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime.
Un jour t'achètes, un jour tu aimes. Un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant, on crèvera tous comme des rats.
On est de retour sur le plateau d'Averro SFM. Il paraît qu'on aurait trop de jours de vacances. Et il paraît que c'est une blague, on en parle avec Nour tout de suite.
Bonjour à tous. Alors vous êtes d'accord avec moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Le ministre Jean-Michel Blanquer annonce dernièrement que nous, les petits Français, avons trop de vacances. Il propose donc, bien évidemment, de raccourcir d'abord les grandes vacances, en mettant une rentrée fin août. Mais les parents d'élèves, et les élèves aussi d'ailleurs, nous ne sommes pas d'accord. Alors, il propose de supprimer les vacances de la Toussaint. Ces vacances qui ont lieu à la fin du mois d'octobre, après les grandes vacances d'été. Savez-vous qu'à l'origine, en 1965, ces vacances ne duraient que 3 jours. Mais au fur et à mesure des différentes politiques, elles sont devenues de plus en plus longues, voire trop longues pour le ministre de l'Éducation. Et il ajoute qu'elles sont trop proches des vacances d'été. Alors, pour corriger, il veut réformer. Bref, qui dit réforme, dit mécontentement. C'est la grogne. Il y a d'un côté les parents qui ont peur que leurs enfants soient trop fatigués et de l'autre les enseignants qui sont contre la rééducation des vacances de la Toussaint. Ils ont bien raison, nos enseignants, on veut garder nos vacances. Savez-vous tout de même que 51% des personnes interrogées sont favorables, ce qui veut dire que 59% s'opposent à cette démarche politique. Ce projet peut donc aboutir. Mais notre président de la République ne s'est toujours pas engagé, il n'a pris aucune décision. Je veux bien le comprendre. Entre les parents, les élèves, les enseignants d'un côté et Jean-Michel Blanquer de l'autre, je ne sais pas qui est le plus redoutable. Mieux vaut-il qu'ils prennent le temps d'y réfléchir. Soyons rassurés pour le moment, notre ministre de l'Éducation ne fait rien. L'idée a été soulevée à la rentrée scolaire 2017-2018. Mais aujourd'hui, chut, il a peut-être oublié. On n'est tout de même pas à l'abri d'un revirement de situation. En politique de l'éducation, tout est permis. On nous change notre brevet, on nous change notre bac, et puis quoi encore? Moi je dis, pour éviter les changements de notre scolarité, mieux vaut laisser les élèves décider par eux-mêmes.
Merci. Averro SFM, les collégiens prennent la parole. Et on continue sur notre lancée. De quoi parle-t-on ? On parle de la première dame de France.
Exactement. Bonjour fidèles auditeurs. Je reviens après un long moment d'absence avec un nouveau scoop de la première dame de France. Vous connaissez mes scoops, ils sont top. J'étais en voyage professionnel pour suivre le président et son épouse. En effet, le 12 mars 2018, le couple présidentiel s'est rendu en Inde en jet privé. Le voyage s'est très bien déroulé. L'avion se pose, les portes s'ouvrent, le couple apparaît. Il est souriant, beau, heureux. Tous les adjectifs de la joie et du bonheur sont déroulés comme le tapis rouge qui se déroule devant les marches du festival de Cannes et où les artistes ont peur de se ramasser. Bref, pas moins de 500 personnes attendent ouvertement notre couple présidentiel. Les caméras de journalistes, dont moi, sont orientées vers eux. Les Indiens sont ravis de les recevoir. Bref, tout est parfait et parfaitement bien géré, préparé, calculé, millimétré. Même la tenue du couple. Allez, parlons-en. Le couple très classe. Le président dans un très beau costume, cravate taillée, signé Hugo Boss, et sa femme en tailleur tiré à quatre épingles, blazer, jupe courte et signé Lagerfeld. C'est vrai d'ailleurs, je me souviens même que son tailleur était bien mieux tiré que ses rides. Enfin, malgré son âge, je vous rassure, elle a un corps d'une jeune fille d'une vingtaine d'années, une taille de guêpe. La couleur lui va à ravir, mais je suis sûre que sur moi, ça rendrait mieux. Bref, cette dame est d'une pure élégance. Belle, angélique, elle est radieuse. Elle sourit, ses dents ultra blanches, j'en suis jalouse. De ce tableau presque parfait, le dîner va être servi comme il se doit, croyez-moi. Ce tableau glamour du couple présidentiel était au summum de la perfection. Il salue le monde à la manière de la reine d'Angleterre, c'est un tricheur. Notre première dame de France glisse sur la deuxième marche et s'ensuit pirouette, glissade, roulement, grand écart. Je ne savais dans sa chute repérer sa tête, juste pour prendre son cliché de son regard dans cette chute, vous l'auriez vu. Même le pauvre Emmanuel Macron s'est mis à courir afin de la rattraper. Une mèche de cheveux lui restait dans la main, oh là là. Bref, elle nous a fait une danse typique d'Inde. Elle est arrivée avant son mari en bas de l'escalier. De plus, ce n'était pas les témoins qui manquaient. Mais elle ne s'est pas laissée démonter la dame. Elle s'est relevée et avec une certaine nonchalance déroutante, elle a fait le salut de la fin de spectacle de cirque. La pauvre, il ne lui manquait que le grenet rouge au milieu de son visage pour être l'artiste la plus aimée des enfants. Merci.
Bravo. Mais on reste dans le sujet politique puisque j'accueille Reda sur ce plateau. De quoi on parle, Reda ? De quoi est-ce que tu parles ? Tu vas parler de quel sujet ?
La rencontre extraordinaire entre Trump et Kim Jong-un.
Super, on t'écoute.
Donald Trump a accepté de participer à un sommet historique avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Il s'agit d'un rebondissement spectaculaire dans l'un des conflits les plus épineux du globe. Trump deviendrait le premier président en fonction à rencontrer un dirigeant nord-coréen. Il y a encore quelques semaines, il était impensable de songer à une telle rencontre. Les programmes nucléaires nord-coréens étant à l'origine de cette discorde. Cette future rencontre serait à l'initiative du dirigeant nord-coréen pour parvenir à la dénucléarisation permanente. L'issue sera-t-elle favorable ? Compte tenu de la personnalité des deux protagonistes, cet énorme coup de théâtre diplomatique peut bien se traduire par un succès retentissant que par un désastre fiasco. L'enjeu est de taille, car une page de l'histoire de la Corée peut se jouer à présent. Déjà pendant les Jeux Olympiques qui se sont déroulés en Corée du Sud à Pyeongchang, on a assisté à un rapprochement inattendu et surprenant du dirigeant de la Corée du Nord auprès de celui de la Corée du Sud. Est-ce l'effet Jeux Olympiques qui a amélioré les relations diplomatiques entre les deux pays et a également permis l'apaisement des tensions entre Trump et Kim Jong-un ? Dans cette future rencontre, les enjeux stratégiques et économiques sont importants. La Corée du Nord a en effet tout à gagner.
Merci beaucoup. On change de thématique et on va parler d'environnement avec Ménel. Bonjour.
Bonjour. Vers une planète poubelle. Hier, dans une des salles de classe, j'ai vu plein de papiers à terre. Vous savez que lorsque vous jetez un papier à terre, les techniciennes de surface, ces femmes que nous voyons peu, sont là pour les ramasser. C'est comme lorsque vous jetez un papier dans la rue, il y a des agents de propreté urbain qui sont là pour vous les ramasser. Alors non, non, non et non. Certes, les techniciennes de surface et les agents de propreté sont là pour faire leur travail. Mais ils ne sont pas là pour ramasser vos papiers, vos canettes, vos chewing-gums, vos ordures. Évitez de jeter vos déchets parce que vous ne respectez pas ces hommes et ces femmes. Vous ne respectez pas la nature également. Savez-vous que jeter les papiers dans la nature, c'est lourd de conséquences. Il y reste des années avant de se dégrader. Un mouchoir en papier va mettre 3 mois. Un papier de bonbon ou un chewing-gum vont mettre 5 ans. Une canette, par exemple, va mettre 100 ans. Savez-vous aussi qu'en France, nous jetons 25 360 kg de déchets par seconde? Je vous laisse compter ce que cela donne en une année. Et dans le monde, c'est 80 à 126 tonnes de déchets. C'est énorme. À cause de cela, il y a en Afrique des rivières d'ordures. L'Afrique devient un continent poubelle. Là-bas, les enfants ne vivent plus. Ils survivent. À Conakry, en Guinée, par exemple, les rivières sont polluées par les déchets. Alors, les habitants, pour trouver de l'eau saine, creusent profondément avec des bidons. Quand il pleut, ce sont des odeurs nauséabondes et nuisibles pour la santé qui se dégagent. Le risque de contracter des maladies sont énormes. J'ai un autre exemple, celui des océans, qui sont envahis par les déchets plastiques et c'est un réel danger pour la faune et la flore. Dans un litre d'eau, les scientifiques ont trouvé 230 particules polluantes. Ils trouvent même du plastique dans l'estomac des animaux marins. Il faut se poser des questions sur la qualité des poissons que nous mangeons. Cela coûte trop cher pour dépolluer l'environnement. La seule solution, c'est de faire en sorte que les déchets n'arrivent pas dans les rivières, dans les océans, dans les estomacs des poissons. Maintenant, quand vous avez un papier dans la main, il suffit de penser aux personnes, à la nature, aux animaux qui souffrent à cause des déchets et jeter vos papiers dans une poubelle. Sinon, notre pays deviendra une France poubelle, la Terre deviendra une planète poubelle.
Merci Ménel. On va faire une petite pause et on continuera de parler d'environnement juste après avec Ayoub.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. C'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire.
Et on est de retour sur Averroes FM. On continue de parler d'environnement. Notre terre souffre et nous souffrons également. C'est ce que va nous expliquer Ayoub. Bonjour.
Bonjour. Savez-vous, chers auditeurs, que les principales causes du réchauffement climatique sont l'utilisation d'énergies non renouvelables par les industries? Vous n'allez pas me croire, car ces énergies non renouvelables sont à l'origine de plus de 80% des émissions mondiales de CO2. Les pays développés et les pays émergents sont les principaux émetteurs des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, comme le CO2, sont pris au piège dans l'atmosphère et contribuent au changement et au réchauffement climatique.
Le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental sur l'évolution climatique, a dit que le réchauffement climatique est autant mauvais pour l'environnement que pour l'homme. Les saisons sont devenues très instables, ce qui a, entre autres, des conséquences sur l'agriculture et sur la faune et la flore. Il est responsable de tempêtes, de feux de forêt, de sécheresses ou encore de canicules. Il est aussi responsable de beaucoup de maladies respiratoires et cardiaques pour l'homme. C'est à cause de lui qu'il y a la fonte des glaces. Des îles paradisiaques comme les Maldives disparaîtront englouties par la montée des eaux à cause de la fonte des glaces causée par le réchauffement climatique. Je ne sais pas si vous avez remarqué que pendant ces dernières décennies, la température avait augmenté. En 2080, les experts ont dit que le réchauffement climatique aura augmenté de 4 degrés. C'est énorme. Si cela continue ainsi, il arrivera un jour où tout le monde mourra à cause des maladies et de la hausse de la température qui atteindra son apogée.
Merci beaucoup. On change de sujet et j'accueille Sarah sur ce plateau qui va nous parler de l'histoire oubliée de la fête de Pâques. Bonjour Sarah.
Bonjour. L'histoire oubliée de la fête de Pâques. Je vais vous parler de la fête de Pâques. Vous connaissez tous Pâques ? J'imagine que non. Alors, je vais vous raconter la vraie histoire, celle que vous n'avez jamais entendue. Si on demande à un enfant, et d'ailleurs même à la majorité des gens ce qu'est Pâques, la plupart d'entre eux vous diront que c'est une journée durant laquelle on fait la chasse aux œufs, on mange du chocolat et on se réunit en famille. C'est une période durant laquelle les magasins sont envahis par des rayons entiers de chocolat multicolores et multiformes. Les publicités qui font la promotion du chocolat et de Pâques envahissent nos écrans de télévision et nos boîtes aux lettres. Merci pour la nature. La réalité est bien autre. Eh bien, Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle est toujours fêtée le dimanche qui se situe entre le 22 mars et le 25 avril. Cette année, Pâques est fixée le 1er avril. Il est obligatoire de chômer et d'assister à l'église ce jour-là. Pâques signifie Pacha, qui signifie passer au-dessus. Je vous explique. À l'origine, Pâques est une fête païenne et les Juifs devaient sacrifier un agneau. Le sang de cet agneau était badigeonné sur le montant des portes. Pourquoi vous allez me dire ? Eh bien, dans le but de protéger les premiers-nés que les puissances devaient détruire. Ces puissances, à la vue du sang, passent au-dessus de la maison et les premiers-nés sont épargnés. Elle est aujourd'hui symbolisée par un œuf, parce que l'œuf est le symbole de la germination qui se produit au début du printemps. Voilà encore une fête qui vient s'inscrire dans la longue liste des fêtes religieuses. Ces fêtes, aujourd'hui, sont simplement commerciales.
Merci beaucoup. On refait une petite pause musicale et après, vous restez avec nous parce qu'on va parler d'un lieu hanté en Irlande.
Avéro SFM, les collégiens prennent la parole.
Un beau voyage, ou comme c'est celui-là, quiconque il a toison, épuisé, retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents, le reste de son âge, quand reverrai-je hélas de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Thank you.
je fumais la cheminée. Et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison? Mais quand reverrai-je?
Émission spéciale Averro SFM.
Et on est de retour sur le plateau d'Averro SFM et je vous l'avais promis, on s'en va en Irlande pour découvrir un lieu hanté.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un lieu terrifiant qui donne la chair de poule. Il se trouve en Irlande et il paraît que c'est le lieu le plus angoissant de ce pays. Il se nomme le Hellfire Club. En français, le club du feu, de l'enfer. C'est un nom pas très amical. Il a été construit en 1750. Savez-vous à partir de quoi ? À partir de pierres de cimetière préhistoriques. C'est un bâtiment immense qui se trouve sur une colline située dans un vaste champ étendu. Autour, il n'y a rien. Pas une maison, pas d'arbres, pas d'animaux. Bref, il n'y a rien. On peut juste apercevoir un chemin qui mène à ce lieu lugubre. À l'origine, c'est un pavillon de chasse. Et avec le temps, il est devenu un lieu de rencontre étrange. C'est un lieu connu car il s'y passe des choses anormales. Tout commence lorsqu'un groupe d'aristocrates en fait un lieu de rendez-vous hebdomadaire. Je ne vous parle pas de rendez-vous professionnel ou sportif ou même encore d'un dîner entre amis. Je vous parle de rendez-vous sataniques, des rendez-vous qui sont devenus réguliers. Chaque dimanche, ces gens de haute société se réunissent pour mépriser la société et la religion. Ils pratiquaient le mal par excellence selon certains historiens. Aujourd'hui, on dit que le diable s'y est installé. Le Hellfire Club est le lieu le plus terrifiant du pays. Il est devenu un lieu très touristique. D'ailleurs, un groupe de 3 touristes s'est aventuré dans le Hellfire Club. Un jour, ils y ont rencontré un homme étrange, souffrant apparemment de troubles psychiatriques. Celui-ci serait jeté sur eux pour les poignarder. Un jour, un autre touriste s'y est rendu pour y faire une partie de cartes. Pendant le jeu, sa carte tombe à terre. Il se penche pour la ramasser. Et il découvre que les pieds de son adversaire sont en réalité des sabots. Aujourd'hui, les enquêteurs du paranormal y trouvent de quoi travailler. Les promeneurs disent sentir une présence sombre autour du bâtiment en ruine actuellement. La nuit, si vous avez le malheur d'y entendre le cri et les lamentations d'une femme, votre cœur serait brisé. Un énorme chat noir aux yeux de braise se montre parfois autour du site. Une infernale odeur se dégage du Hellfire Club. C'est un endroit extrêmement hanté.
Merci beaucoup. Alors là, on change de sujet. Ça va être la chronique de Cyrine. C'est un petit peu le coup de gueule de Cyrine, hein, je crois. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est mon coup de gueule. Je suis en colère. J'ai envie de vous parler de la Journée internationale des droits de la femme. Une journée qui a vu le jour en 1977 avec l'Organisation des Nations Unies. Et ce n'est qu'en 1982 que la France accueille cette journée. Cela ne fait pas si longtemps, mais cela fait 36 longues années d'attente. Je vous explique. Le 8 mars ne passe plus inaperçu. C'est la journée de la femme, la seule journée de la femme. Sur 365 jours par an, on a une journée pour nous. Une journée par an pour lutter contre les inégalités, comme si le droit des femmes se résumait qu'à une journée. Et la semaine dernière, comme chaque année, on a eu le droit à celle-ci. Alors, Que se passe-t-il à votre avis, concrètement, tous les 8 mars? Je vais vous aider. On doit, par exemple, sensibiliser aux droits de la femme pour lutter contre les inégalités, telles que les inégalités salariales. Eh bien, pour moi, ça revient à dire « Bonne fête, les sous-payés ». On doit, un autre exemple, sensibiliser aux violences faites aux femmes. Eh bien, pour moi, ça veut aussi dire « Bonne fête, les maltraités ». On doit encore lutter pour l'éducation des filles dans certains pays. Eh bien, pour moi, ça veut aussi dire « Bonne fête aux filles qui n'ont pas le droit d'aller à l'école ». Nous sommes d'accord, c'est absurde. 36 ans de lutte et toujours rien en vue. Nous sommes d'accord sur cette idée. Si on parle encore aujourd'hui de la Journée internationale de la femme, c'est d'admettre qu'il y a encore de nombreuses inégalités. Et tant qu'il y aura des inégalités, nous les femmes, on ne va pas se battre que le 8 mars. J'ai un conseil à donner à toutes les femmes du monde, celui de continuer à se battre tous les jours pour notre place dans cette société. Nous sommes tous égaux. Ce sont les mentalités qu'il faut changer, celles des individus incultes à ce sujet. Et que les choses soient claires, il n'y a qu'en grammaire que le masculin l'emporte.
Merci, Cyril. Et pour la dernière chronique de cette émission, on va parler des réseaux sociaux.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose que tous les ados de notre génération aiment, les réseaux sociaux. On les aime parce que c'est gratuit et facile de communiquer avec les autres. C'est vrai, on peut échanger facilement avec nos amis et les membres de nos familles. Aussi, les réseaux sociaux ne sont pas utiles qu'aux jeunes. Même les adultes les apprécient. Par exemple, dans le monde du travail, ils sont utiles aux entreprises car elles ont un contact direct avec leurs clients. Et ces réseaux sociaux véhiculent pour eux des messages publicitaires. Bref, avec lui, on partage notre vie. On se lève avec, on dort avec, on sort avec, on mange avec. On va en cours avec et grâce à lui, on discute avec le monde entier. Nous les aimons. Et oui, grâce à eux, on est toujours connectés. Nous aimons Facebook, Twitter, Instagram, Periscope. Ne parlons pas de nos petits montages sur Snapchat qui font fureur. Vous savez que les réseaux sociaux que je viens de vous citer sont les sites les plus visités la nuit? Et j'ai vu qu'il y a quelque temps que les ados ne dormaient pas bien. La cause des réseaux sociaux. Et oui, savez-vous que la moitié des adolescents se réveillent la nuit pour consulter leur téléphone? Ils ne veulent pas louper une seule information. L'impact sur le sommeil est énorme. Certaines personnes deviennent même addictives. Il y a un réel danger sur la santé. Le manque de sommeil et l'anxiété sont les principaux dégâts chez les jeunes. Ils ne peuvent même plus se concentrer dans leur travail scolaire. Pour éviter cela, nos parents doivent absolument instaurer des limites. Nous voulons des règles de sécurité et de prévention. C'est-à-dire que nous voulons des limites. Nous en avons besoin. Comme sortir l'ordinateur de notre chambre, définir un temps limité de connexion, vérifier notre passage sur les sites. Bref, il nous faut un contrôle parental. Si rien n'est fait rapidement, nous risquons de devenir accros, addicts et malades. Merci à tout le monde.
Merci. Et je pense d'ailleurs que c'est le moment de réapplaudir tous les élèves qui ont participé à cette émission. On va se quitter avec une chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle « Les choses ».
reste.